Ah non, on est en direct.
Welcome back, salut. Alors, on a une connexion très mauvaise, donc on va voir si ça fonctionne. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Alors, pour la petite histoire, on a lancé le live sur la mauvaise chaîne YouTube. On n'a pas été très bien réveillés ce matin, la preuve. Donc voilà, Samuel nous dit qu'on nous reçoit 5 sur 5, donc tant mieux. On fait comme si de rien, hop hop hop, c'est ça Nekotaï. Ouais. Exactement, tu as très bien résumé ce qui s'est passé. Donc bienvenue à tous ceux qui nous auront rejoints entre temps. J'ai plus le mot, Julien, Patrick, bienvenue à toi, Damien, Nicolas, Florian qui a dû faire son café entre temps, Florentin, Gilou, Robin, Joseph et Victorious Big, Bidule, Burno. Etc. Donc bienvenue à tous, on espère que vous êtes levés du bon pied ce matin. Si c'est pas le cas, allez vous faire un café, un thé ou un jus d'orange.
Allez vous faire voir, j'ai cru que
allez vous faire voir. Non mais restez avec nous, justement on va se réveiller en douceur avec les dernières actualités tech. Là normalement on est sur la bonne chaîne, on a nos articles de prêt et on a des articles intéressants ce matin. Là c'est vrai qu'on avait une actualité un petit peu flottante durant ce mois d'août, et là on sent que la rentrée se prépare. On a des news assez intéressantes à vous partager. Tout simplement.
Je te propose, Marion, que tu fasses que tu lises le sommaire toute seule, parce que je suis en train de modifier le post dans YouTube, que les gens tombent sur le bon stream.
Très bien. Donc, de quoi on va parler ce matin? Bah, moi, je vais commencer à vous parler, évidemment, de YouTube. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la news, mais YouTube a partagé hier une mise à jour qui change le logo. Hein, et assez... Enfin, de manière assez, assez flagrante, au fur et à mesure des années, ils avaient fait quelques petits liftings du logo, quelques petites évolutions. Là aussi, c'est une évolution, mais quand même un peu plus marquante que les autres années. On verra en quoi elle consiste. Il y a également une mise à jour des applications, du site internet qui passe en défaut en matériel design. Enfin bref, on en parlera un peu plus en détail tout à l'heure et on verra ce que ça changera pour vous. Et vous nous direz ce que vous en pensez. Et puis, on parlera...
Ça y est, je peux, si tu veux, je peux enchaîner. Enfin, c'est un sujet à moi ou à toi?
Oui,
là
à toi.
D'accord. Et on parlera de réalité augmentée, la guerre Apple-Google qui se profile. Guerre bien, bien réelle, où Apple a l'air d'avoir une petite longueur d'avance. Et on en parlera, justement.
Et puis, on parlera aussi de Netflix. Netflix, on en parle souvent. Et là, hier, c'était les 20 ans de la société Netflix, qui ne s'appelait pas Netflix à l'époque de son lancement. Donc, on reviendra... on reviendra justement sur la jeunesse de la société et comment elle a su évoluer avec son temps.
Et on parlera de films en 4K sur l'Apple TV. Apple serait en plein bras de fer avec Hollywood pour négocier sur le prix des films disponibles, en tout cas aux US, parce qu'en France, bon, on en reparlera, mais disponibles peu de temps après leur sortie. Et il y a une vraie bataille sur le prix qu'Apple voudrait faire et que les majors voulaient faire.
Ah oui, désolé, je...
Tu moires. Si vous voulez, on vous expliquera en fin d'émission qu'est-ce que c'est que le moirage. Très intéressant.
Et oui, ne jamais mettre de rayures quand on se filme.
Là, c'est vrai que tu fais des effets. Remarque, ça fait un peu...
c'est comme
un pull en réalité augmentée.
Non, mais t'as
un
pull en réalité augmentée. C'est les cartes que tu bouges comme ça et...
T-shirt en réalité augmentée, voilà. Marion 3D.
Et puis moi je
vais vous parler. Moiré de ouf.
Moiré de ouf. Ensuite je vais vous parler de Uber. Alors c'est vrai qu'on a parlé de l'annonce du nouveau CEO. Et ben on va parler là d'un revirement un petit peu sur une autorisation de tracking qu'Uber demandait sur son application. Et là ils reviennent un petit peu sur leurs pratiques et ils expliquent pourquoi.
Non, ça n'a pas à voir avec le petit capteur, le moiré, justement. Faux. Mais avec le tramage du capteur. Désolé,
stop,
hein, je m'arrête.
Stop.
On va parler de pub sur YouTube. Vous avez peut-être vu une pub ce matin avant de lancer, ou pas d'ailleurs, avant de lancer le live. Puis une deuxième parce qu'on s'est planté de live, donc il a fallu relancer.
En fait, c'était une technique pour gagner plus de sous sur
exactement,
YouTube.
Vous comprenez comment on gagne des sous maintenant. C'est en rusant, putaclic et petites affaires. Non, là justement, et c'est plutôt bien pour vous, mais même pour nous aussi, YouTube va enlever un certain type de publicité qui vous énervait particulièrement. Vous verrez tout à l'heure.
Et puis, on parlera aussi d'une des personnalités. Merci Burneau. Pour le café et les croissants. Bah, merci beaucoup.
Ah, je mangerais bien le croissant, là.
Ouais, oui, moi aussi.
Mmh. Oh, putain,
ouais,
tu m'as
donné
faim. Ouais. Merci de nous avoir donné faim, en plus.
On a petit déjeuner pourtant, mais, mais là, petite chocolatine.
Un petit pain au chocolatine. Mmh.
Bref, on va parler de d'une des stars du net les plus controversées et qu'on adore critiquer.
Pourquoi Burneau a été suspendu? C'est Dams, pourquoi t'as suspendu Burneau? Il vient de faire un super chat. Je pense Damien, que tu t'es planté de ligne, Damien.
Banne pas les personnes qui nous soutiennent.
Un ban d'un super chatter, c'est un peu violent.
Ouais, j'avoue.
Oups. Bon, faites attention avec les super chats ce matin. Hein. Je pense que juste en dessous, il y avait une demoiselle dévêtue. Je pense que Damien n'a pas cliqué sur la bonne ligne.
Il n'a pas visé sur la bonne poitrine.
Bon, je vous laisse démêler ça.
J'espère que Burneau va pouvoir nous rejoindre rapidement quand même, c'est un comble. Comment on débloque? C'est une bonne question.
Je sais pas. Bon, enfin bref, vas-y.
Donc, je disais, je vais réussir à finir le sommaire. On va parler d'une des stars les plus controversées d'Internet, c'est évidemment Kim.com, qui revient avec un nouveau service, Bitcash. Très fort.
Il n'a pas fait une étude marketing sur la France et sur les francophones.
Hein, oui, que... non, mais après, c'est méga
Bitcash.
Voilà.
Bitcash, ça fait un peu slip en fer, quoi.
Donc voilà, toujours très en finesse. Et on parlera, donc on présentera ce nouveau service et on vous donnera notre avis, on vous demandera votre avis évidemment, et on fera des pronostics sur l'avenir de ce service.
Tout à fait. Et on terminera avec des photos faites avec des boîtes de hamburgers McDo. Je vous en dis pas plus. Vous le saurez en fin d'émission. Marion, il est déjà 8h15.
Ah, attention Jean-Michel Pascal, tu vas te faire ban parce que tu viens de nous soutenir.
Merci Jean-Michel Pascal pour ton super chat. On est désolé, on a du retard ce matin, on a eu des pépins techniques et puis des maladresses de ma part. C'est des choses qui arrivent. Marion, sans transition, je te propose de commencer tout de suite le premier article.
Je commence tout de suite et c'est YouTube. Eh bien évidemment, on est sur YouTube, donc ça tombe bien, on parle de YouTube. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez peut-être vu hier soir. Il y a eu des mises à jour des applications YouTube de disponibles et du coup, vous avez vu l'apparition d'un nouveau logo du service, de la plateforme. Donc, pour rappel, un petit peu l'évolution du logo YouTube, assez emblématique, hein, ce U avec l'espèce d'écran, de cette bulle rouge avec le tube dedans. Et bien, aujourd'hui, du coup, vous pouvez ouvrir votre application YouTube, mais je suppose que c'est déjà fait puisque vous nous regardez.
Merci Pascal.
Pas de ban, Damien.
Pas de ban, Damien, ouais. On est désolé, manifestement, Burneau est coincé pendant 300 secondes. Il n'arrive pas à le décoincer. Donc, vraiment désolé, hein, Burneau.
Il faudra, oui. On lui fera un hourra de
welcome
back quand il reviendra.
Quand il reviendra. Ouais.
Voilà, un nouveau logo est apparu. Donc, je vais pouvoir vous le montrer parce que j'ai mon iPad. Même s'il n'est pas hyper grand sur l'iPad, vous pouvez le voir dans le coin en haut à gauche, ici, le logo. Donc, qu'est-ce qui a changé? C'est évidemment le titre YouTube qui est complètement indépendant de l'icône de l'application ici qui passe avant.
Merci Elbinou.
Merci beaucoup. Et
soutien aux Snapchatters qui ont été ban.
En fait, Damien, tu crées le buzz avec ton ban de Super Chat.
Voilà. En fait, il faudrait que tu puisses débloquer quelqu'un en rajoutant des super chats, tu vois, pour le délivrer. Merci 2082 Clo pour ton super chat suisse.
Bonjour également.
Bonjour.
Donc voilà pour le changement de logo. Donc certains vont râler en disant « Ouais, c'est pas un gros changement. » Quand même. Et ça va permettre aussi une meilleure clarté, une meilleure lisibilité du logo parce que du coup, il va pas être coupé en deux.
Je suis Burneau. Merci Yannick pour ton super chat.
Merci Yannick. Il y a une vague de
je suis Burneau. Hashtag je suis Burneau. Ça va devenir le synonyme d'une injustice, tu sais. Le mec, il fait un super chat et il se prend un ban direct derrière.
Je sais plus ce que je disais.
Là, c'est dur pour toi, je suis désolé.
Donc, je disais, le logo va permettre une meilleure lisibilité parce qu'évidemment, le nom est écrit en une fois attaché et en complètement en noir et pas en noir et en blanc, ce qui est un petit peu compliqué. Donc, ça va permettre aussi une meilleure lisibilité, notamment sur les petits écrans. Et ça va aussi permettre une meilleure complémentarité de l'icône et du logo en soi qui va pas être complètement entremêlé, une meilleure cohérence quand on utilise l'icône et quand on utilise vraiment le logo complet. Donc, ça, c'est pas mal. L'icône a été légèrement revue aussi. Hein. Vous aurez l'espèce de petit écran rouge avec le play intérieur qui va être énorme par rapport à la taille de l'icône. Donc on va avoir des marches qui vont être un peu irrégulières sur les bords. Il y a eu déjà des blagues sur Twitter qui sont sorties. Au-delà de la révision du logo, il y a les applications et évidemment le site internet qui ont été revus. Donc le site internet, c'était quelque chose qu'on avait déjà vu il y a quelques mois. Vous pouviez choisir d'avoir la nouvelle version de YouTube qui était beaucoup plus lisible, encore une fois, beaucoup plus aérée, avec une meilleure plus d'espace, etc. autour des contenus, plus propre, on va dire, et qui utilisait un peu plus les règles et les recommandations matériel design. Ce qui fait sens puisque évidemment Material Design est le design system de Google et donc disponible sur tous ses produits, donc ça faisait vraiment sens qu'évidemment ça fasse son arrivée sur YouTube. Moi en tout cas j'apprécie énormément cette nouvelle interface.
C'est vrai qu'elle est bien, c'est
sauf pour changer de compte.
Ah oui, mais voyez, en fait l'erreur vient de YouTube, c'est comme il y avait la nouvelle interface, j'étais perdu, je me suis trompé de compte ce matin. Non mais c'est vrai en plus, parce qu'en fait avant il y avait la barre rouge en haut. Et le logo rouge Nowtech se mélange à la barre quand je suis sur le live. Et là, comme il n'y a plus la barre rouge, j'ai perdu mon repère couleur.
Voilà. Et comme il l'a dit, sur les applications, parce qu'il aime bien faire mes articles avant que je les fasse.
Mais non, je parlais juste.
Mais il a spoilé en fait. Il n'y a plus cette barre rouge en haut des applications. Elle passe en blanc. Donc ça, c'est une mise à jour bienvenue. Cette barre rouge était trop présente. Elle déconcentrait l'utilisateur alors qu'il souhaitait plus se concentrer sur les contenus, etc. Et de la même manière, les tabs qui étaient en haut dans cette barre rouge descendent en bas dans une tab barre plutôt iOS-like, qui est rentré dans les guidelines Material Design parce que Google s'est aperçu que c'était quand même plus pratique pour accéder aux différents onglets. Donc voilà, ça a mûri.
Tu as senti un petit personnel, non ?
Non, mais c'est marrant quand...
Bref.
Non, mais c'est toujours la petite bataille où chacun...
Burnot est revenu et il refait un super chat. Attention, Burnot. Attention, est-ce qu'il va se prendre
Damien,
un ban ?
Damien, retiens-toi. Pas de ban.
Damien veut couler Nowtech en supprimant tous les super chats et après il s'attaquera au Tipeee.
Welcome back Burnot, toutes nos excuses et excuses de Damien évidemment, il l'a pas fait exprès. Bref, voilà pour les nouveautés. Vous avez aussi un onglet library, enfin bibliothèque et compte qui ont fait son arrivée pour accéder plus facilement à vos rubriques préférées. Donc ça aussi, c'est bienvenu. J'essaye de ne pas rater ce que je voulais dire. Il y aura aussi des contrôles sur la vidéo qui vont se faire avec le tactile, enfin avec les gestures. Donc ça va être bienvenu également.
Ça, c'est vrai que ça avait un côté ringard, mine de rien, l'appli YouTube. Tu vois, les mouvements sur la vidéo, enfin le contrôle par les gestes, je l'ai sur toutes mes autres apps vidéo, sauf YouTube, quoi, quasiment. Donc, ils étaient un peu en retard.
Oui, enfin, après, ils font d'autres choses. Enfin...
Oui, oui, non, mais tu vas pas défendre YouTube non plus.
Bah, si, c'est intéressant ce qu'ils font. Quand même, je ne tacle pas juste pour tacler. Et puis, une autre arrivée très, très intéressante et qui fait extrêmement sens pour YouTube, c'est évidemment l'arrivée d'un player adaptatif donc qui va s'adapter en fonction du format de la vidéo. Donc, si vous regardez une vidéo en 16:9, eh ben, la vidéo va être, le player va rester normal. Si vous regardez une vidéo carrée, ben, le player va s'agrandir sur votre smartphone, notamment pour afficher le format carré, et donc si c'est un format vertical, de la même manière, ça va descendre pour optimiser l'expérience de regarder la vidéo en format vertical. Donc là, c'est bienvenu. À voir comment, s'ils vont le faire sur desktop, parce que là, a priori, je vois à peu près comment ça va se gérer plus facilement sur smartphone. Mais je serais assez curieuse de voir ça s'ils intègrent sur desktop. À voir. Là, ils ne précisent pas où est-ce qu'ils l'intègrent. Bref, pas mal de petites choses. Et puis, il y a d'autres fonctionnalités qui vont arriver au fur et à mesure, qui vont être déployées, évidemment. Mais en tout cas, belle mise à jour de YouTube quand même.
Mais j'ai l'impression que là, YouTube se prépare à... peut-être pas des grandes choses, mais je sens pas mal de... Tu vois, le côté réseau social, la nouvelle interface, ça m'a fait penser à ça instantanément. Maintenant, ils vont peut-être pouvoir intégrer d'une manière plus claire des fonctions beaucoup plus sociales dont ils parlent depuis deux ans maintenant.
Il y a la messagerie,
Mais je pense qu'on va avoir pas mal de modifs sur YouTube. YouTube a pris conscience que, enfin, il sent le souffle chaud de la concurrence, que ça soit du côté Netflix, que ça soit d'autres formules de streaming, etc. Ils sont moins en position dominante quand même cette année, hein, mine de rien, et pour le futur.
Oui, oui, oui.
Donc voilà, il y a eu peut-être un petit réveil là chez YouTube, ne nous endormons pas sur nos lauriers.
Bon, on en parlera justement tout à l'heure avec Netflix et les 20 ans de Netflix, mais c'est très très intéressant aujourd'hui le paysage des plateformes de vidéos, en tout cas du streaming vidéo. C'est particulièrement intéressant et dynamique, c'est assez passionnant ce qui est en train de se passer avec beaucoup beaucoup de concurrence, c'est un sacré enjeu financier. Merci Jérôme Blin. YouTube Red, une date, on n'a toujours pas de nouvelles pour l'arrivée de YouTube Red malheureusement. On vous tiendra évidemment au courant dès que ça arrive.
Tout à fait. J'enchaîne sans transition. On ne va pas faire de petites annonces parce qu'on n'a pas le temps. Puis de toute façon, elle nous concernait juste nous. On enchaîne tout de suite et on va parler effectivement de la réalité, de la réalité augmentée. C'est vrai que la guerre du contenu, comme tu nous le dis, est enclenchée. Mais la guerre de la réalité... La guerre de la réalité augmentée commence aussi aujourd'hui. On sent que Google a un peu annoncé en catastrophe AR Core pour lutter contre AR Kit. Pour rappel, AR Kit, c'est le SDK et pas le DSK comme j'ai dit l'autre jour. Le SDK, oui.
Non, si, j'ai c'est dit génial.
Oui, bah oui. Ne mettez jamais un DSK dans votre smartphone. Le SDK d'Apple AR Kit pour la réalité augmentée. Eh bien, Google lance le compétiteur qui va s'appeler AR Core, mieux que AR Kit, le AR Core. Ils ont montré une petite démo qui est pas vraiment plus, mais c'est pas mal. Voilà, petite démo justement de AR Core où on va voir des choses comme ça en réalité augmentée qui se mettent sur des surfaces planes. Ça m'a quand même donné un peu l'impression de la démo faite vite fait, pas trop mal fait, mais regarde, tu vois, c'est un petit peu primitif, quoi. La 3D, elle est un peu primitive. Ah, putain. Mashable, qui, avec leur pub, ça reboot le site, ça m'énerve. Soussou, ouais, ben, soussou mon cul. Voilà, donc, pour mettre des personnages en réalité augmentée... Mais vous me direz ce que vous en pensez, mais la démo fait un petit peu fait à l'arrache. Tout ça donne un peu une impression d'à l'arrache. Et pourquoi à l'arrache? Parce que Google se fait un petit peu du souci. iOS 11 arrive. Dans iOS 11, déjà, ils ont annoncé à peu près une dizaine d'apps de réalité augmentée.
Walking Dead.
Dont le truc de Walking Dead dont on va parler.
Ça va pouvoir tuer.
Et ces apps sont pas mal du tout quand on voit les démos. On sait que l'ARKit, je vous montre une démo moi que j'ai vue hier et qui est super impressionnante de l'ARKit. C'est dans un resto japonais où tu peux voir tes plats dans ton assiette avant de les commander en réalité augmentée. Donc à travers votre smartphone, vous le pointez sur votre assiette vide et vous allez pouvoir voir directement les plats dans votre assiette avant de les commander. Regardez, ce qu'il y a d'impressionnant, c'est que le modèle virtuel sur l'assiette qui est réelle ne bouge pas. Il n'y a pas de tremblement comme tout ce qu'on a pu voir en réalité augmentée jusque-là. Il y a vraiment un alignement qui est très très bien fait entre la projection et le... Oui, bon, après vous dites c'est pas très intelligent de... Moi, je trouve ça pas mal de voir quand même son plat dans son assiette avant de le commander. C'est un peu geek, hein, je suis d'accord.
Imaginez, vous êtes dans un pays étranger dont vous ne connaissez pas la langue.
Ouais.
Et vous avez le menu qui vous permet de voir directement les plats. Ça peut être quand même assez intéressant.
T'es au Japon et tu commandes du sashimi et tu sais, ils ont plein de couleurs différentes de saumon pour choisir justement ta qualité, de pouvoir voir ça dans ton assiette. Pour nous occidentaux qui n'avons pas l'habitude, ça pourrait être pas mal du tout.
Mais c'est déjà une habitude qu'ils ont, c'est-à-dire qu'ils affichent dans les vitrines généralement les versions physiques des plats en mode plastique, enfin, je ne sais pas comment c'est rendu. Et du coup, là, ça pourrait remplacer ça avec de la réalité augmentée, tout simplement.
Tout à fait. C'est vraiment pour ça que la vidéo suffit, pas besoin de réalité augmentée. Ouais, non, ça se discute. Là où Google se fait vraiment du souci, c'est que Apple arrive quand même avec une plateforme très cohérente, les smartphones derrière, les applications. Quelque part, Apple a fait l'inverse des autres. Au lieu de foncer à sortir une visière ou un système pour mettre la réalité augmentée sur le nez, ils se sont d'abord concentrés sur les apps et sur le développement en fait software de la réalité augmentée.
Et surtout, est-ce que les développeurs commencent à mettre les mains là-dedans, en fait, que ça soit adopté par la communauté des développeurs, c'est-à-dire qu'ils l'ont lancé à la WWDC 2017, qui est une conférence à destination des développeurs, parce que si les développeurs adoptent et développent plein de choses, c'est eux qui vont avoir les bonnes idées, c'est eux qui vont trouver des usages intéressant et c'est eux qui vont développer les applications là-dessus. Donc c'est vraiment critique que les développeurs adoptent.
Tout à fait. Et ils adoptent à vitesse grand V parce que déjà vont sortir avec iOS 11 l'application de réalité augmentée d'IKEA, un truc qui s'appelle Food Network in the Kitchen où vous allez pouvoir afficher des plats dans votre cuisine, Jiffy World qui va permettre de mettre des gifs un peu partout.
Jérôme et moi, on est fan de l'application Jiffy.
Ah ouais. Donc
iOS,
ça va être
notamment dans l'application iMessage qui permet de s'envoyer des GIFs tout le temps.
On a des dialogues qui sont uniquement des GIFs. Ouais. On fait des dialogues entiers rien qu'avec des GIFs. On s'échange des GIFs avec Marion.
Enfin, c'est un peu plus compliqué maintenant sur Android.
Oui, bon, bref.
Je lis tes GIFs.
Oui,
vivement
que tu reviennes sur iOS. Arise, qui va être un jeu de Climax Studio, qui va vous permettre de vous balader dans des ruines. Very Hungry Caterpillar. Alors ça m'a fait quelque chose parce que c'est un livre d'enfant pour moi.
Ah oui ?
Ben oui, mon enfant, je l'ai passé aux États-Unis et c'est un livre d'enfant très très connu, The Very Hungry Caterpillar. Et là, on va pouvoir, pour les enfants, faire le compte en fait dans ta réalité en cliquant sur des objets de ta chambre. Le petit, c'est un inchworm, une chenille en fait, c'est une petite chenille qui mange des pommes. Le caterpillar, ouais. Et tu vas pouvoir l'afficher dans ta chambre et tout ça, ça a l'air trop rigolo.
C'est un peu flippant.
Non, parce que...
The Very Hungry Caterpillar.
Oui, mais en fait, c'était un livre, bon, j'explique, c'était un livre où la chenille mangeait le livre et il y avait des trous dans le livre. Et à fur et à mesure que tu... Il y avait de plus en plus de trous dans les pages. C'était super marrant, c'était vachement conceptuel, quoi. Bref.
Souvenir émouvant d'enfance.
De trous. Il y aura aussi The Walking Dead. Vous allez pouvoir pourchasser des zombies dans votre ville, dans votre chambre, dans votre maison, esquiver des zombies qui vous attaquent dans la rue. Je pense qu'il va y avoir des moments très drôles parce que ça va être un espèce de Pokémon Go où les Pokémon peuvent vous attaquer. Donc je vois bien
résumé.
Ouais, je vois des gens, tu sais, faire des sauts sur le côté dans la rue avec leur smartphone et faire ah mon dieu, ça va être rigolo. Enfin, ça va être n'importe quoi.
T'imagines,
comme
tu te fais écraser parce que t'as essayé d'éviter un zombie.
J'ai évité un zombie. J'ai pas évité le camion, il était réel. Bref.
Attention, hein, toujours quand vous jouez à des jeux de réalité augmentée, spécifiquement.
Ouais, n'oubliez pas la
rue.
Réalité. Non mais on l'avait dit déjà pour Pokémon Go dans la vidéo qu'on avait faite. Le truc, et ce qui est très marrant dans le développement des apps, c'est qu'ils ont vraiment rendu ludique le processus de scan. Parce qu'avant que l'AR fonctionne, il faut un peu scanner l'endroit où t'es. Et par exemple, je donne juste l'exemple de Walking Dead, l'appli va vous demander de scanner pour voir s'il y a des survivants dans la zone où vous êtes. Et en fait, pendant ce temps-là, il est en train de scanner ce qu'il voit à la caméra pour pouvoir placer des zombies. Hein ? Donc, vous ne faites pas avoir.
Bien
vous
fait.
Cherchez des survivants et des zombies vont vous sauter dessus. Ça va faire comme ça, vous voyez. Bref, on attend. Je suis complètement sorti du sujet. Bref, Google Flip, nous aussi, on va voir la réalité augmentée, c'est demain. Marion, on enchaîne.
On enchaîne. Et après YouTube et le combat des géants de la vidéo, du streaming vidéo, et ben on va évidemment parler de Netflix et qui vient de fêter justement ses 20 ans hier. Et donc on va revenir un petit peu sur l'histoire de Netflix. Il y avait des choses que je ne connaissais pas justement, notamment quand ils ont débuté, Netflix s'appelait Kibble. Kibble, ça veut dire croquette, et c'est en référence justement.
Et là, il y a Ouski qui arrive. Quoi On m'a parlé.
Il faut faire le bruit des croquettes qui remuent dans le sac.
Voilà, ouais. Il viendrait tout de suite.
Pour qu'il arrive. Et donc, ça fait référence notamment au fait que même si la publicité est bonne, ça ne peut pas être un succès tant que les chiens ne mangent pas les croquettes. Donc en gros, dans l'histoire, les viewers, enfin les personnes qui regardent les vidéos sur Netflix, consomment les croquettes, consomment les vidéos présentes sur le service. Donc en gros, c'est ça. C'est tant que les utilisateurs ne consomment pas le contenu proposé par Netflix, on ne peut pas parler de succès, même si la campagne, même si la publicité fait parler du service, etc. Donc ça, c'était assez intéressant. Et donc, pour savoir, à l'époque du lancement, Netflix, quand même, était dans le marché de la location de DVD et de films à des prix assez choquants. Et même qu'à un moment donné, ils offraient aussi d'envoyer les DVD dans des enveloppes rouges.
Mais tu sais que je m'en souviens, et on peut remercier Netflix parce que c'est les premiers à avoir sponsorisé des podcasts. Et les mecs faisaient la promotion, c'était The Totally Rad Show par exemple, qui étaient les premiers, on va dire, vraiment truc. Moi, c'est ce qui m'a donné l'idée de No Watch, c'est de voir ces, à l'époque, c'est de voir ces vidéos-là. Et ils avaient comme sponsor, et c'est là où on s'est dit putain, il y a des frics à se faire, erreur. Netflix les sponsorisait pour faire la promotion des enveloppes de DVD qu'on t'envoyait chez toi, et tu pouvais renvoyer par enveloppe. C'était révolutionnaire, plus besoin d'aller justement au magasin de DVD pour louer ton DVD, quoi. Tout se passait par la poste.
Ouais. Donc voilà, donc pour petit rappel, Netflix c'était ça il y a quelques années. Ensuite, ils se sont évidemment lancés dans le streaming vidéo. Et puis très récemment, hein, je ne sais pas, depuis quand date House of Cards ?
2013.
Wow.
J'ai lu l'article.
Ah oui. Petit tag bien senti. Et donc voilà, House of Cards, ils ont shifté de vidéo, de plateforme de streaming de contenu à carrément producteur de séries originales, de contenu original. On l'a vu évidemment avec House of Cards, on l'a vu avec toute la saga des Defenders, donc toutes les différentes séries Marvels, on l'a vu avec Marco Polo, on l'a vu avec les films Okja, enfin il y a pas mal de films qui sont produits, de documentaires également, et ça avec...
Il y a la nouvelle série d'ailleurs que j'ai regardé, j'ai oublié de te le dire, la nouvelle série sur les fumeurs de joint, la Disjointed. Où même Netflix se met à vendre de l'herbe. Ils ont vendu vraiment de l'herbe pour faire la promo de la série. Elle est moyenne, la série, mais bon, c'est du...
Oui, j'en ai pas entendu parler.
Alors, c'est pas exactement lui qui l'a écrit, mais c'est un peu les mêmes producteurs, Big Bang Theory. Donc, c'est un peu Big Bang Theory chez les fumeurs de joint. Donc, c'est très caricatural.
Ça me donne pas trop envie.
Ouais.
J'en ai entendu parler pour ça. Ouais. Ça me donne pas trop envie. Un Big Bang est suffisant. Voilà donc pour un petit peu le rappel de l'évolution de Netflix. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que cette année, pour la première fois, Netflix a plus d'abonnés que le câble américain, hein, que les services de câble américains, et qu'ils ont également dépassé le nombre d'abonnés à l'étranger par rapport à leur base d'utilisateurs aux États-Unis. Avant, évidemment, les États-Unis représentaient leur marché, leur premier marché. C'était aujourd'hui 51,9 millions d'abonnés aux États-Unis. Et pour la première fois, ils ont dépassé ce chiffre avec le nombre d'utilisateurs à l'international, donc en dehors des États-Unis, avec 52 millions d'utilisateurs, ce qui est énorme. Et enfin, du coup, Netflix n'a plus besoin de reposer uniquement sur la base d'utilisateurs américaine.
Ouais.
Ils solidifient leur position. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont un potentiel de croissance encore énorme, notamment avec le marché chinois, enfin asiatique, voilà.
Ils ont un gros potentiel de croissance encore.
Ouais. Oui. Et c'est ce qui fait que les investisseurs les laissent tranquilles pour le moment. On avait déjà parlé que Netflix avait beaucoup de dettes, beaucoup d'obligations de paiement, notamment 20 milliards de dollars.
Ils investissent énormément de milliards
dans la prod. Que ce soit dans la production, que ce soit dans le déploiement à l'international, etc. Mais c'est un pari qu'ils font, et vu les prospectives d'évolution et de croissance qu'ils ont, c'est tout à fait pour l'instant bien vu de la part des investisseurs. Et c'est vrai que pour le coup, Netflix a une vraie mentalité de start-up avec cette croissance énorme qu'ils font d'année en année.
Ils n'ont pas prévu de bénéfices avant 2022, je crois. Donc ça veut dire que pour l'instant, tout l'argent qui rentre, il ressort en prod, il est dans la conquête. En fait, ils sont dans une stratégie de conquête de la planète. Quelque part, ils ne font pas du tout de bénéfices à Netflix. Au contraire, ils perdent de l'argent comme vache qui pisse.
Oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont quand même les pieds sur terre par rapport au marché. Ils ont une longueur d'avance, c'est-à-dire qu'ils anticipent un petit peu l'évolution du marché. Là, notamment avec l'usage mobile, pouvoir regarder et consommer du contenu vidéo en mobilité, ça veut dire pas seulement quand vous êtes chez vous devant votre écran de télévision, mais également lorsque vous êtes dans les transports en commun, avec la possibilité de télécharger du contenu, ça en fait partie, la possibilité de pouvoir streamer avec des réseaux 4G et compagnie, ce qui est critique pour les secteurs du type Afrique, Moyen-Orient, Asie et compagnie, puisqu'évidemment, ce sont des secteurs où les smartphones sont très importants et plus importants qu'une connexion Internet chez soi. Donc le cellulaire est très très important, donc voilà, ils sont vraiment, vraiment à la pointe, et ça va être vraiment passionnant de suivre un petit peu le bras de fer enclenché entre Facebook, Netflix, YouTube et compagnie.
Ouais, il y a deux choses, il y a un truc qui était intéressant aussi, c'est de la part de celui qui a écrit l'article, c'est de dire finalement le fait que Disney quitte Netflix, c'est plutôt un signe de force, quoi.
Disons que c'est un beau compliment pour Netflix.
Ouais.
C'est-à-dire que Netflix est devenu une menace telle pour Disney qu'ils ont senti le besoin d'avoir leur propre service de streaming pour pouvoir peser sur la scène des géants de streaming vidéo.
Et c'est ce que j'avais dit dans un article deux jours après. Finalement, Netflix est assez serein parce que Disney sera obligé de négocier maintenant avec Netflix pour avoir aussi des séries produites par Netflix sur leur propre plateforme de streaming. Donc, c'est réciproque. Ils sont arrivés à se hisser à un niveau.
Et pour rappel, les créateurs de contenu, des fois, quittent des grandes productions. Là, dernièrement, on avait Shonda Rhimes. Donc, pour ceux qui se demandent qui c'est la créatrice de Grey's Anatomy. C'est pas forcément la plus acclamée des séries, mais elle n'a pas que ça, évidemment, à son palmarès. Récemment, elle a signalé qu'elle allait quitter ABC pour arriver sur Netflix avec un contrat, a priori, basé sur 4 ans de production de contenu sur la plateforme Netflix, pour des libertés de créativité présentes sur la plateforme. Donc là, c'est vraiment intéressant aujourd'hui ce qui se passe pour la création de contenu.
Après,
à voir où est-ce qu'on va se placer entre formatage de contenu avec ce qui marche le mieux pour les utilisateurs, ce que les utilisateurs vont le plus chercher sur la plateforme, et quand même la possibilité d'avoir des créations indépendantes, vraiment artistiques, comme on a pu le voir avec d'autres productions qui étaient déjà disponibles sur la plateforme.
Après, je suis d'accord avec vous, on ne va pas payer pour des abonnements pour plein de plateformes de streaming, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les années à venir, ils veulent engager le bras de fer pour finalement avoir le plus de parts de marché possible. Si Disney se met au streaming, il sait bien que vous n'allez pas payer et Netflix et Disney, mais ils espèrent que vous allez abandonner Netflix pour passer sur Disney. C'est leur espoir, en fait. Et ils sont un peu obligés de le faire, parce que vis-à-vis de leurs actionnaires, s'ils ne faisaient pas ce combat pour les parts de marché, on estime qu'ils ont déjà, ils n'ont pas fait la guerre, donc en gros, ils ont déjà perdu, en fait, la bataille du contenu. Donc c'est un peu ce qui va se passer dans les 4-5 ans à venir, et au final, il y aura peut-être 1, 2, grand maximum 3 plateformes de contenu qui vont triompher, en fait, et qui vont avoir vos 10 euros par mois.
Oui, mais pas uniquement plateforme de contenu. Enfin, je veux dire, il y a vraiment un changement dans les usages où on va consommer du contenu pas uniquement sur sa télé, pas uniquement via des cable providers, mais on va pouvoir le consommer quand on veut, où on veut, comme on veut.
Il y a un truc, moi, je me disais ce matin, en prenant ma douche, si Netflix demain disait et proposait à certains YouTubeurs qui font, selon certains standards de qualité qu'ils auraient imposés, des émissions, et YouTube et Netflix vient, par exemple, imaginons, si on était plus gros, Netflix vient nous voir et dit « Naotech TV, on aime bien vos émissions, elles sont jolies à regarder et tout ça. On va ouvrir nous une section de user-generated content sur Netflix, mais par contre, vous nous accordez l'exclusivité, vous n'allez plus sur YouTube. » Ben, tu sais que j'y réfléchirai, parce qu'il y a une telle base d'utilisateurs Netflix, et on est sûr d'être payé, puisqu'il y aurait une répartition de l'argent des abonnements Netflix, ça ferait réfléchir les producteurs de contenu. Et Netflix peut arriver demain, proposer aux gros YouTubeurs, vous venez sur Netflix, vous quittez YouTube, ils gagneraient. Et ouais, hein, Netflix.
Sauf qu'aujourd'hui, tu n'as pas le réflexe forcément d'aller consommer du contenu.
Sur Netflix.
Il faut voir quel... Laisse-moi finir. Ça dépend quel type de contenu. Aujourd'hui, sur Netflix, c'est vraiment du pur divertissement. Nous, on n'a pas que ça, mais on a notamment des vidéos de tutos, de tests et compagnie. Il n'y a pas encore vraiment ça sur Netflix. Je ne dis pas que ça ne va pas arriver, mais il y a aussi des habitudes de consommation où les utilisateurs vont chercher tel type de contenu sur le net et pas sur Netflix. Quand tu ouvres Netflix, c'est pour te détendre et pour lay back and enjoy, lay back and watch, et pas apprendre, pas chercher des choses utiles, etc.
Mais moi, je vois ma soirée typique sur une tablette, j'alterne entre tout du contenu Netflix et du contenu YouTube.
Oui, mais voilà, chacune des plateformes a un type de contenu.
Oui, mais si j'avais tout sur la même plateforme, ça serait pratique aussi. Si tout était sur Netflix, mais que j'ai des moments Netflix, comme tu dis, pour regarder du divertissement et d'autres pour
retarder. Je dis pas le contraire, sauf qu'il y a des habitudes d'usage qui fait que les gens ne vont pas avoir l'idée d'aller chercher sur Netflix. Tu sais, on avait le problème à un moment donné, c'est que moi, je n'ouvrais pas Netflix. Je n'avais pas le réflexe
d'ouvrir Netflix
ouais. pour voir ce qu'il y avait dessus. J'avais mes habitudes de consommation et il m'a fallu beaucoup de temps. Et même aujourd'hui, ce n'est pas mon premier réflexe
Netflix. Oui, mais ça
je l'ouvre en dépit quand je ne trouve pas quelque chose à regarder ou quand je sais que j'ai une série que je suis qui est présente sur Netflix. Mais il faut identifier quel contenu est disponible sur la plateforme pour y aller.
Oui, mais tu es d'accord que si on faisait une bonne campagne de marketing et que Netflix disait « Les grosses têtes d'affiche YouTube que vous connaissez, Squeezie, Kazen et Stat et tout ça, débarquent sur Netflix », hop, je comprendrais tout de suite que ce type de contenu, maintenant, j'y ai accès aussi dans l'application Netflix.
Je ne dis pas le contraire, mais il y a une courbe d'apprentissage à avoir. Oui, ça ne va pas du jour au lendemain, on va changer les habitudes.
Non, mais
il y a ça aussi pour Netflix qui est important.
Oui, mais ce que je veux juste te dire, c'est le plus important.
On va pas y arriver. Il veut avoir le
Non, mais aujourd'hui, les producteurs de contenu, que ce soit des petits, des amateurs, des youtubeurs ou des gros qui font des films et des séries, ont besoin de revenus. Et Netflix offrirait une alternative de revenus qui serait beaucoup plus viable que celle de YouTube. C'est pour ça que je dis que ça pourrait aller plus vite qu'on ne le croit, si Netflix s'y mettait. Mais bon, débat.
Allez, on enchaîne.
C'est à toi, d'ailleurs.
Bah non, c'était mon article.
Ah merde.
Il a tellement parlé pendant mon article, il s'est vu que c'était moi qui était censé le faire.
Justement, sur la paix des ménages.
Et j'ai vu une pub pour Dailymotion à la télé.
Ah, vous faites de la pub à la télé? Ah, j'avais pas vu. Il faut dire que je regarde jamais la télé en même temps. Justement, bataille du contenu, ça continue. Apple serait en plein de bras de fer avec Hollywood sur les prix des films. Apple, on le sait, hein, c'est un secret de polichinelle, il y a de fortes chances qu'Apple arrive avec une Apple TV 4K et ils aimeraient arriver avec du contenu 4K parce que sinon ça sert pas à grand chose. Et l'idée, en tout cas aux États-Unis, c'est de pouvoir offrir les films 17 jours après leur sortie en salle à la location sur l'Apple TV en 4K pour pouvoir vraiment profiter. Alors, vous ne faites pas d'illusions, ça n'arrivera pas en France, hein. La chronologie des médias ne permettra pas ça. Là, c'est vraiment un débat américain. Le truc, c'est que Apple aimerait offrir ses films à la location pour un prix que je trouve déjà exorbitant de 19,99 $, 20 $, 20 $ la location de films. T'as intérêt à inviter des amis à les faire payer pour que ça soit rentable. Hein.
Oui, puis en plus, c'est de la location, c'est-à-dire que c'est pour le regarder un nombre de fois limité, soit pendant une durée limitée.
Tu te rends compte que tu te fais 2 mois de Netflix avec un film, quoi. C'est ça qu'il faut... Ouais.
Et non, mais pour nous qui sommes habitués des services de streaming et compagnie...
Ça nous paraît exorbitant, quoi.
Voilà.
Et le truc, c'est que Hollywood, ça leur suffit pas. Ils ne veulent pas. Eux, ils veulent $25 ou $30 le film. Et Apple, en gros, essaye de faire un prix moins cher. Oui, Apple essaye de faire moins cher que...
Je pense qu'ils partent du constat aussi que tu regardes ça en famille. Et donc, du coup, tu divises le coût du nombre de places de cinéma.
Non, mais c'est des raisonnements de vieux monsieur.
Bien sûr.
C'est des raisonnements de vieux monsieur qui n'ont pas compris l'évolution du marché. Et ils vont se planter. Et Apple aussi va se planter. Apple aurait mieux fait de se battre. Je suis même pas sûr.
Ah, c'est de l'achat, c'est pas de la location ?
Non, c'est de la location.
Sell for K-Movies.
Ah, tout sell ? Ah, d'accord, donc tu gardes le film après.
Ok. Mais il y a quand même des DRM.
Oui, il y a des DRM, bien sûr. Chez Apple, faut pas rêver.
Bon, moi, ça me fait chier quand même de payer un truc $25. Je le fais pour les e-books sur ma Kindle. Mais encore, hein, faut voir au niveau du prix, quoi. Je réfléchis quand même.
C'est vrai que j'avais compris que c'était de la location. Ouais. Mais, ouais. Ouais. Ouais, quand même, ça fait cher.
Il temporise, mais il est quand même pas convaincu.
Non, non, mais c'est marrant. Hein. Avant, j'achetais des DVD, 20 € ou des choses comme ça. Mais on a complètement shifté dans nos têtes. On n'est plus prêt à dépenser ce prix-là pour du contenu, quoi. À peut-être pour des grands blockbusters que je suis sûr de vouloir garder, des Star Wars et des choses comme ça.
Enfin, des films phares de ta filmographie.
Mais,
quoi,
mais effectivement, comme le dit Pascal, qui achète des films aujourd'hui ? C'est une éternité que je n'ai pas acheté un film.
Bah, c'est les mêmes qui achètent leur musique sur Apple, sur iTunes, quoi.
Ouais, $20.
Si iTunes existe encore, c'est qu'il y a quand même des personnes qui achètent des titres de musique ou des films sur iTunes. Donc il y a quand même un marché.
Et on nous dit les puristes, mais je me demande si les puristes vont pas acheter des DVD, ça va être un peu le vinyle des puristes de films ou acheter un support physique. Parce qu'un puriste va pas acheter un support dématérialisé, quoi. Un collectionneur, il a besoin d'avoir un objet physique, quoi.
Ouais.
Il y aurait peut-être un truc à sortir un format ultra haute qualité, des DVD, ça existe hein, d'ailleurs, des Blu-ray haute qualité pour les collectionneurs de films, quoi. On nous le dit, oui, des Blu-ray.
Et t'as raison Yannick, la musique tu l'écoutes plusieurs fois, pas un film un dessin animé.
Ça dépend, il y a des films que je regarde régulièrement, mais...
Oui, non, mais c'est vrai qu'en termes d'usage, tout ce qui est lié à la musique, la répétition fait partie de l'expérience d'écoute, alors que regarder des films, la répétition n'en fait pas partie. C'est à part si c'est un film culte, ou si tu travailles dans le film, ou si tu étudies dans le cinéma, ou tu vas te regarder des séquences, etc. Mais sinon, tu ne regardes pas tout le temps ou à la même fréquence une vidéo de musique ou une vidéo de...
Non, c'est clair, c'est clair. Voilà. C'est clair, c'est clair. Voilà, en tout cas, on verra. Mais Apple se bat pour votre pouvoir d'achat. Sachez-le. Oui, ça prête à rire. Qu'est-ce que... L'audio 24 bits chez Apple. Ah ça, on n'a pas de news là-dessus. C'est déjà rare quand je regarde un film deux fois. Pour moi, c'est inconsommable. Ouais, je pense que c'est vraiment ça. Le film est vraiment devenu un... Avec le streaming et surtout l'avènement des séries, l'audiovisuel est devenu beaucoup plus consommable, quoi. Dans la notion de consommable.
Non, et puis c'est vrai qu'avant, comme on dépendait beaucoup de la télé, bah, c'était souvent des films qu'on avait soit déjà vus au cinéma, il y avait des rediffusions, etc. Donc le fait de re-regarder un film, c'était sympa, c'était conditionné par la télévision. Aujourd'hui, avec les plateformes de streaming, encore une fois,
La Grande Vadrouille, un film à regarder tous les ans.
On a une offre, le Père Noël est une ordure.
Le Père Noël est une ordure.
C'était de la peur. Excusez-moi, j'arrête. L'offre est telle qu'en fait, on peut regarder un nouveau film différent chaque soir, en fait.
Ouais.
Si t'as Netflix, comme en plus ils renouvellent leur catalogue chaque mois avec des nouvelles arrivées. Alors certes, il y a des films que tu vas revoir, mais c'est beaucoup moins répandu qu'auparavant.
Tout à fait. Et on enchaîne.
Et on enchaîne avec on arrête de parler de vidéos, on arrête de parler de plateformes de streaming.
Non, on revient tout de suite après ton article. Aujourd'hui, on va être beaucoup stream, contenu audiovisuel. Hein,
on prend une pause sur le sujet des vidéos et des plateformes de streaming pour parler d'Uber. Et oui, Uber, on aime bien en parler aussi, ils font beaucoup l'actualité. Et notamment, là, on ne va pas parler du nouveau CEO qui a pris ses fonctions, c'est plutôt par rapport à une notion de tracking que faisait l'application. C'est-à-dire que Uber a été pas mal critiqué lors de la sortie de cette fonctionnalité, c'était de traquer les utilisateurs même quand ils étaient arrivés à destination, et ce parfois pendant quelques heures, quelques jours, ou même une semaine ou des semaines. Ce qui était assez choquant, et tout le monde se demandait mais pourquoi je veux une vie privée, je veux garantir mes données personnelles, et j'ai pas envie de partager ma localisation tout le temps avec Uber en background de l'application. Donc Uber, le problème, ils sont revenus sur cette notion-là, donc ils vont faire une mise à jour, ils vont retirer ce tracking en background constant après que la course soit terminée de l'utilisateur, car en effet, ils se sont expliqués, ils ont dit on a mal expliqué qu'est-ce que ça a apporté pour nous. En gros, ils n'ont jamais expliqué ce que ça a apporté pour eux, hein. Ils n'ont pas mal expliqué, ils n'ont jamais expliqué, et en gros, ils ne l'expliquent pas plus aujourd'hui, ils disent juste on l'enlève parce qu'en effet, on ne s'est pas bien expliqué. Puis si on le ramène un jour, on expliquera mieux.
Ouais.
Ok, d'accord. Donc, voilà, ils risquent potentiellement. Donc voilà, vous allez avoir une nouvelle mise à jour d'Uber où ils vont enlever cet aspect-là. Donc bien, c'est bien pour nos batteries, c'est bien pour notre vie privée surtout. Et puis, ils vont peut-être le faire revenir plus tard en opt-in, c'est-à-dire que vous devrez accepter. Et vous ne serez pas obligé, parce qu'aujourd'hui, si vous refusez le tracking, même une fois que la course est finie, l'application devient pratiquement inutilisable. Dans l'avenir, ils feront ça en mode optionnel vraiment, pour garantir quand même l'usage de l'application sans cet aspect-là. Et surtout, ils feront très attention à expliquer en quoi ça consiste, qu'est-ce que ça leur apporte, et en quoi c'est utile pour Uber et potentiellement pour l'utilisateur. Parce qu'on a quand même envie de savoir, nous, qu'est-ce que ça nous apporte d'être traqué tout le temps. C'est à part quand même, violer notre vie privée.
C'est quand même peut-être le premier signe d'une page qui se tourne chez Uber avec le nouveau CEO qui arrive. Voilà, des pratiques, comme tu dis, un peu cow-boy, gangster, hein, qu'ils avaient de faire passer des trucs en douce, c'est peut-être effectivement là un pas vers une reconquête, en tout cas, d'image qu'ils ont perdu grandement cette année. Uber, qui a quand même une
Ils accumulent un mécontentement des utilisateurs, des conducteurs, une mauvaise presse, générale au niveau de la tech, mais pas que, même au niveau politique, avec les combats qu'ils ont dans différentes villes. Ils ont également une très mauvaise presse au niveau employé, en interne. Je veux dire, aujourd'hui, qui a envie d'aller bosser chez Uber? Hein, le recrutement de talents, et dont dépend la qualité du service aussi, c'est critique. Et là, à mon avis, ils ont atteint un niveau où... qui a envie d'aller travailler dans un environnement de travail malsain, toxique,
surtout qu'on sait que c'est pas une entreprise si solide que ça, quoi. Ils brassent beaucoup d'argent,
mais ils
en perdent énormément.
Encore une fois, comme Netflix aujourd'hui, ils sont dans un peu un proof of concept, c'est-à-dire qu'ils essayent de grossir le plus vite possible, d'engranger maximum, un vrai pari sur l'investissement. Donc ils perdent énormément d'argent. Mais maintenant, il faut que ça paye dans les mois, années à venir.
Oui, et puis la concurrence, elle est déjà féroce, hein, pour Uber. Ils se battent aux États-Unis, nous, on ne s'en rend pas compte en France, mais Lyft est très virulent. Ils ont perdu en Chine contre le compétiteur chinois. Donc, Uber n'a pas une position comme Netflix, qui a quand même 2 ans d'avance sur les autres, largement. Ils n'ont pas une position si pérenne pour le futur. Donc, effectivement, c'est des problèmes.
Donc voilà pour Uber.
Le tracking, ça serait super. Oh, c'est un peu trop long.
Si on s'en servait pour féliciter les conducteurs qui respectent les limitations de vitesse sur la route, manière d'essayer de modifier le comportement, pas du positif. Non, mais le tracking pendant la course, elle va rester.
Ça, ça reste, bien sûr.
Voilà, donc ça, il n'y a pas de souci.
En fait, ça s'allumera que quand tu ouvres l'app, du coup, le tracking, et ça ne continuera pas quand tu fermes l'app, en fait.
Et ça terminera quand ta course termine. Voilà.
Tout à fait, tout à fait. Les taxis normaux meurent à cause d'Uber. Écoute, t'as pas tout à fait tort, mais pour une certaine catégorie de taxis, ils l'ont bien cherché, et surtout pour certaines boîtes, hélas, qui gèrent les taxis en France, ils ont, à mon avis, largement contribué à la situation qu'il y a aujourd'hui. Donc, il ne faut pas voir Uber comme que un grand méchant. Il y a aussi des sociétés de gestion de taxis qui ont vraiment contribué à la mort des taxis actuels.
Après, maintenant, il y a des régulations qui ont été mises en place, hein, justement, pour pouvoir réguler le business créé par Uber et le business historique des taxis, pour pouvoir s'adapter à l'évolution aussi de ces pratiques-là. Donc, voilà, ça commence à rentrer dans l'ordre, quoi.
Ça commence à aller mieux, effectivement. Allez, on enchaîne, on ne va pas avoir le débat taxi-Uber, on aura d'autres occasions d'avoir ce débat-là. Juste une très bonne nouvelle pour vous qui regardez quand même pas mal de YouTube, et j'espère toutes nos vidéos sur la chaîne principale YouTube, vous savez, celle où on a fait un faux live ce matin, ça c'était la chaîne principale. Les pubs non collapsables, les plus énervantes sur YouTube, celles on ne peut pas fermer, on est obligé de regarder jusqu'à la fin. Ben jusqu'ici, il y avait encore quelques pubs de 30 secondes non collapsables. 30 secondes, c'est une éternité. Eh bien, elles vont disparaître de la plateforme. Il n'y en avait déjà plus beaucoup, sauf, et ça je vous le dis, vous allez comprendre une des raisons pour lesquelles on est content de ne plus avoir notre MCN. Par exemple, notre régie, et certains d'entre vous, hélas, ont subi ces pubs-là, des non-collapsables de plus de 15 secondes, qui finalement étaient mises en place par notre régie et pas par YouTube. C'est-à-dire que sur YouTube, elles étaient rares, mais par contre, les régies MCN parallèles avaient tendance, parce que bien sûr, c'est des publicités qui ramènent beaucoup d'argent, les 30 secondes non-collapsables, c'est celles qui coûtent le plus cher. Donc, a priori, maintenant, sur Nowtech, vous ne devriez pas avoir de publicité de plus de 15 secondes non collapsable. Fini les 30 secondes.
Multi-channel network, voilà ce que signifie MCN.
Après, si vous voyez encore des pubs, d'abord avertissez-nous, si vous voyez encore des pubs non collapsables de plus de 30 secondes. Mais si vous en voyez chez d'autres YouTubeurs, c'est peut-être qu'ils sont encore chez un MCN qui justement n'adoptera pas cette politique publicitaire de YouTube. Les multi-channel networks ayant des politiques publicitaires qui leur sont propres et YouTube ne les contrôle pas forcément. C'est d'ailleurs pour ça, à mon avis, que YouTube essaye de tuer les multi-channel networks. Mais ça, c'est un avis personnel. À toi, Marion.
Enfin, je pense qu'ils contrôlent un minimum le format des pubs qui sont autorisés sur la plateforme, hein.
Plus ou moins, ils ont un peu un problème. C'est que YouTube, au début, a beaucoup fait appel à des régies externes pour vendre. Parce que...
Oui. Non, mais ça, on est d'accord. Ils vendent, mais après, ils autorisent certains formats sur la plateforme ou pas.
Oui, mais
ils doivent répondre à certains critères pour pouvoir être diffusés. Sinon, on aurait n'importe quoi comme format publicitaire.
Ce que j'essayais d'expliquer, c'est qu'au début, ils ont lâché beaucoup la bride aux régies en leur donnant des droits, justement, et un contrôle qu'ils ont du mal à regagner. En gros, les régies avaient beaucoup de liberté sur les formats publicitaires qu'ils mettaient sur YouTube, bien sûr dans les guidelines, mais tu vois, aujourd'hui, YouTube ne peut pas vraiment imposer au MCN un certain type de pub. Ouais, en tout cas, c'est ce que j'ai entendu.
J'en suis pas si sûr, je pense.
Bah, moi, c'est ce que j'ai entendu de gens.
D'accord.
Voilà.
Ok.
C'est que c'est après, c'est des négociations, en fait, tout ça.
Ok.
Bah, en fait, juste pour expliquer une chose, c'est qu'en France, notamment, Google n'avait pas de force commerciale pour vendre les espaces publicitaires, donc ils ont beaucoup délégué au multi-channel network.
Oui, mais ça je comprends bien et je suis d'accord avec toi, mais sauf que tu as d'autres moyens de pression, c'est-à-dire que si un MCN n'est pas compliant avec les règles de la plateforme, ben fuck the MCN, quoi.
Ouais, mais il y a des MCN.
Quand tu bloques toutes tes channels parce que tu respectes pas. Enfin, à un moment donné, si le produit évolue, le MCN est dépendant de ce produit-là, de cette service, de cette plateforme-là. Et si à un moment donné, tu vois, ils doivent tout le temps s'adapter. Mmh. Et c'est le problème des MCN, c'est que le but du MCN aussi pour les créateurs de contenu, c'est de pouvoir diffuser sur plusieurs plateformes en même temps, ce qui simplifie le processus d'upload. Mais ça veut dire aussi être compliant avec tout, enfin être respectueux, compatible, des règles, voilà. Compatible, merci, avec les règles des différentes plateformes, ce qui est complexe et nécessite une maintenance très très importante. Et donc du coup, là, pour moi, ça fait partie de ça.
Ouais.
Après, je connais pas les détails techniques, on n'a pas les infos.
Il
n'y
a pas que technique, c'est que les MCN ont aussi bloqué par contrat, enfin, ils ont en contrat des gros producteurs YouTube en France, donc ils ont aussi un leverage, enfin, du pouvoir de négociation sur YouTube.
Oui, à voir comment c'était le contrat entre YouTube et les MCN. Pour le coup.
Je te dis, c'était un contrat qui était trop large pour les MCN. C'est ce que j'ai entendu. Hein,
moi, oui, mais on n'a pas d'infos.
Voilà, on n'a pas d'infos précises. Bref.
Ok, je vais du coup faire vite parce qu'il est déjà 9h02. Voilà, donc du coup, je vais parler rapidement de Kim.com. Vous savez qui a vraiment fait parler de lui, notamment avec Mega, etc. Un peu personnage controversé de la sphère tech et internet. Il revient aujourd'hui avec un nouveau service qui s'appelle Bitcash, toujours très très fin comme communication. Et en quoi ce service consiste? En gros, il permettrait de payer et de rémunérer les créateurs de contenu, notamment sur YouTube, en installant un petit plugin qui permettrait de les rémunérer en Bitcoin, tout simplement. Donc le problème ici, c'est que ça nécessite déjà l'installation d'un plugin chez chacun des utilisateurs qui souhaitent payer en Bitcoin. Ensuite, évidemment, il faut avoir des Bitcoins pour rémunérer les différentes personnes. Le service s'appelle Bitcash et vient d'être donc dévoilé dans un petit teaser, donc disponible encore une fois dans les articles Naotech TV du Flipboard. Donc vous pourrez regarder un petit peu la présentation. Et donc c'est un nouveau système de micro-paiement, il en existe d'autres, mais je vois mal comment ça peut fonctionner et être encore un énième moyen de soutenir les créateurs qui n'est pas intégré à aucune des plateformes ou en plus nécessite d'avoir des bitcoins, c'est-à-dire que si à la rigueur tu avais un service qui te permettait de payer avec différentes manières de paiement,
ou alors s'ils intègrent une manière facile d'accéder au bitcoin dans le système, peut-être, mais ça me paraît tarabiscoté quoi.
Ouais. Et encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes, il n'y a rien d'officiel, c'est un teaser. Et ce n'est pas la première fois que le monsieur parle de services qu'il ne met pas en place par la suite. Donc ça ne veut pas dire que ça sera présent dans le futur, mais en tout cas, il a un nouveau projet à voir si ça se concrétise par la suite.
J'ai vu qu'il avait un nouveau logo aussi, parce qu'il a... Regarde, dans le début de la vidéo, on voit ce...
Oui, le Kim avec le Kim
avec le I à l'envers, ouais. Donc voilà, on a un extrait de la vidéo qui présente Bitcash.
Voilà, donc là vous avez l'explication un petit peu de comment ça fonctionne. Le logo de Bitcash avec des liasses de billets en B.
Voilà, donc c'est l'intégration. Alors le truc tel qu'il présente, on a l'impression que c'est intégré naturellement dans le player, mais ça veut dire qu'il va falloir télécharger son truc pour que ça se mette quand tu regardes une vidéo, donc c'est ça qui tient pas debout à mon avis.
Voilà un extrait.
Voilà. Et on termine effectivement sur le chapeau de roue. On a eu du retard au début aussi. C'est pour ça qu'on est un petit peu en retard sur la fin. Je voulais vous présenter le travail d'un photographe français qui s'appelle Philippe Echaroux et qui a fait, moi c'est typiquement le genre de projet que j'adore. Il a pris les boîtes de Big Mac, vous savez, les boîtes blanches de Big Mac en carton, et il a fait une série de portraits où en fait il se sert de l'intérieur de ces boîtes de Big Mac comme diffuseur. Donc il utilise une torche, une paille et une boîte de Big Mac, et une fois monté sur son... il en fait comme ça un diffuseur de lumière, vous voyez, ça fait un peu une beauty plate, comme on dit. Il précise même que en frottant ses frites sur le carton, vous augmenterez la luminosité de ce carton en le rendant plus huileux, ouais. En fait. Et regardez quand même, alors voilà ce que ça donne monté sur un smartphone, le carton du Big Mac. Et regardez quand même...
C'est bien parce que tu as une boîte de Big Mac dans la gueule avec l'odeur.
Avec l'odeur, d'ailleurs, on voit, ils font la tête. Mais il a quand même réussi à faire des portraits. Alors oui, il y a du Lightroom derrière. Mais quand même, c'est des belles photos, c'est des beaux portraits, c'est du beau do-it-yourself. Quand on dit qu'un smartphone ne peut pas être un vrai appareil photo, c'est qu'on oublie toujours qu'un vrai appareil photo, c'est plutôt le photographe qui est un vrai appareil photo. Le reste, c'est que du matériel. Et quand vous avez un vrai photographe, quel que soit l'outil qu'il utilise, il arrive quand même à faire des photos qui sont assez... Je ne sais pas ce que tu en penses, Marion, mais ils sont beaux, les portraits.
Non, mais ça m'a fait penser à ton... Tu sais, c'est un peu le hack des objets du quotidien.
J'adore ça.
De ce qui vous entoure, ça m'a fait penser au rouleau de papier toilette.
Le papier cul pour tenir le smartphone. J'adore ce genre d'astuces.
Il y a plein de bonnes idées comme ça. C'est pas le matériel qui fait uniquement les bonnes photos, c'est surtout surtout vous et votre inventivité qui le fait, en fait.
Ouais. Il y a du post-traitement, on ne va pas le refaire. Toute photo de photographe, il y a toujours du post-traitement. Ça fait partie du processus photographique. Ce qui est marrant, c'est qu'on est passé dans un débat genre « Ouais, non, mais en fait, il n'a pas bossé le photographe, il y a du post-traitement. » C'est que vous n'avez jamais fait du post-traitement dans votre vie. Mais c'est vraiment des belles images qu'il est arrivé. Et le piqué, tout ce qui peut être des caractéristiques techniques d'un appareil photo sur un bon smartphone. Là, il utilise un iPhone, mais ça aurait pu être un Galaxy S7 ou ce genre de choses. Vous avez, allez les voir, les photos. Le piqué, le rendu est vraiment assez, assez bon, quoi. Digne effectivement d'un plus gros appareil photo, quoi. Donc, très intéressant. Et on conclut un peu en chapeau de roue ce Techscope. On va faire 5 minutes de questions. Marion, si tu dois y aller parce que tu es à la bourre, je terminerai l'émission.
Non, mais si c'est 5 minutes, ça va.
On va faire 5-10 minutes de questions.
Ah, 5-10 minutes.
Oui, c'est pour ça, je te dis.
Je vais y aller.
Bon, mais tu restes quand même pour les premières. D'ailleurs, si vous avez des premières questions pour Marion, on va commencer par ça. Je vérifie
le nom du photographe.
Je l'ai donné. Je vais vous le redonner.
Jérôme, il veut rester en tête-à-tête avec vous. Ouais.
C'est Philippe Écharoux. Philippe Écharoux, un photographe français. Je regarde si on n'a pas des questions platinium. Non, il n'y a pas de questions platinium. Donc, vous pouvez faire feu, balancer vos questions. Peut-être priorité si vous avez des questions à Marion.
J'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions, là.
Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Serez-vous là pour l'IRL de Patrick le 16? Moi, j'y serai. Toi, Marion, peut-être pas.
Je ne sais pas encore. J'ai potentiellement un concert. En fait, j'avais pas réservé la date. J'avais pas la date en tête, en fait. Et...
sinon, Jérôme n'aura jamais le dernier mot. Il stresse. Ah, mais vous savez, les débats avec Marion, c'est un sport. Nous, il y a des gens qui jouent au tennis ou au ping-pong. Nous, on fait des débats avec Marion. Et c'est toujours un peu sportif. Hein.
Est-ce que vous pourrez avoir la mise à jour de YouTube sur iPhone 5? Je ne sais pas.
Ça va plutôt être une question d'iOS. Si ton iOS, c'est plutôt une question d'iOS. Donc sur l'iPhone 5, je ne crois pas que tu peux avoir ta iOS 10 sur l'iPhone 5. Oui, tu ne pourras pas passer à iOS 11. Donc oui, tu vas avoir la mise à jour normalement.
Oui, j'ai fait Rock en scène et pour le coup, c'est la première édition où il y a eu une vraie bonne ambiance. Parce que la programmation était un peu plus légère, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas des gros mastodontes en termes de programmation. Les trois têtes d'affiche, c'était Franz Ferdinand, PJ Harvey et The XX, ce qui est relativement soft. Et du coup, ça a permis de découvrir pas mal de petits groupes et de petites choses, de belles prestations et du coup d'avoir une bonne ambiance de festival, ce qui ne m'est pas arrivé souvent à Rock'n'Scène en fait. Ouais. Donc vraiment agréable surprise et j'espère que les prochaines années seront comme ça aussi.
Allez lire les articles de Marion sur wildsession.fr qu'elle a écrit. Bienvenue à toi, un chouette témoignage Red Fox qui nous dit c'est mon premier live avec vous. Merci, c'était vraiment bien. On me demande d'expliquer le moiré. Très simplement, un capteur photo, c'est finalement une grille, c'est un alignement de pixels carrés. Le motif de Marion, c'est quelque chose de très géométrique. Et en fait, vous pouvez faire ça avec une passoire chez vous. Regardez la télé avec une passoire. Et en fait, quand une forme géométrique qui serait une grille rentre en conflit avec des lignes géométriques, ça crée ces effets de moiré. Si vous prenez même deux passoires et que vous faites comme ça, vous verrez, ça va vous créer du moiré. C'est pour ça que sur des photos et des vidéos, c'est un phénomène qu'on connaît bien en vidéo, le moiré, et qu'on demande généralement à quelqu'un d'éviter un truc trop géométrique, des petits carreaux ou des lignes quand il fait une vidéo.
Mais comme je suis déçue...
Voilà. En fait, c'est des problèmes de trame, les problèmes de moiré.
On a raté des questions, là.
Ah, alors, tu veux que je remonte
Là, as-tu déjà... Non, descends. As-tu déjà essayé l'ancien Lumix GX8? J'essaie de me trouver en occasion.
Non, j'ai pas testé le GX8. Je l'ai eu en main la Fnac, mais je l'ai pas testé vraiment.
Y a-t-il une solution pour pré-enregistrer des vidéos YouTube pour les regarder plus tard hors connexion? Ça sera YouTube Red. Et il faut attendre que ça soit disponible.
Que ça soit dispo en France.
C'est mon dernier live, mon nouveau boulot ne me permettra plus de voir
live. Ah, on est triste, Laetitia. Bah, on espère que tu tomberas souvent malade pour pouvoir nous regarder.
Non, mais voilà, n'hésite pas à nous regarder en replay et on aura peut-être l'occasion de faire des lives à d'autres moments où tu seras peut-être un peu plus disponible.
Pour l'IRL, le prochain Tech Drink, on n'a pas fixé de date, mais moi, je verrai bien quelque chose avant les fêtes de fin d'année, un petit... Voilà, je veux quand même vous montrer le gif qui vient de retenir l'attention de Marion, qui tournait sur... Attends, il était plus grand là. Voilà le gif du jour que Marion est en train de regarder. Manifestement, c'est une espèce de marmotte ou je sais pas.
Non, c'est pas un raton laveur.
C'est un raton laveur qui fait des pirouettes dans une maison. Voilà, c'était le gif du jour. Donc oui, je verrais bien un IRL juste avant les fêtes de Noël. Non,
c'était pas au salon,
De la photo, salon de la photo. Je pense qu'on va faire un IRL vers le salon de la photo, ouais. C'est effectivement très drôle ce petit gif.
Oui, il s'éclate, ouais.
Il s'éclate. Allez, on prend une dernière question et on vous laisse. Je vous retrouve demain matin.
Je veux être un raton laveur.
C'est une dernière question, on va peut-être remonter.
Non, pas d'IFA en effet cette année.
Si, on va le couvrir, mais dans Techscope, à distance.
Exactement, ouais.
L'IFA à distance.
Parce que tu as le salon à Amsterdam qui est juste après en plus.
Pour être tout à fait honnête, j'ai absolument pas cherché un moyen d'aller à l'IFA.
Ah,
parce
on
que
a raté un super chat.
Ah merde, alors on va remercier tous les super chatteurs. C'est vrai qu'il faut qu'on le fasse tous les jours, ça, il faut pas qu'on oublie. Ah ouais, on en a raté plein.
Ça, c'était pas Burno qui
s'était banné. Ah, c'est drôle. Ton super chat, Burno, est devenu ces super chats de personnes anonymes. Donc, merci à toi, Burno. Merci, Jean-Michel. Merci Pascal.
Merci, Elbinou.
Merci, 2082 Clo. Yannick.
Merci encore, Burno. Merci,
Flo. Merci, Jérôme. Victorious Big. Merci. Marion en basse résolution du t-shirt. YouTube Red, une date pour te répondre, Jérôme.
On a déjà répondu.
Merci en tout cas pour vos super chats, les gars. C'est du bon beurre dans les épinards. Épinards qui, grâce à nos tipeurs, épinards qui deviennent de plus en plus florissants. Ça marche bien, Tipeee, en ce moment. On a encore besoin que ça augmente pour pouvoir sortir un petit peu de la situation actuelle. Mais il y a bon espoir.
Quel photographe tu suis sur les réseaux sociaux?
Moi.
Est-ce que tu penses que c'était
Tristan Pavio. Non, en fait, je suis pas très fort en photographe, je connais. Il y a des gens que je suis, bien sûr, Florian, que je suis, mais je connais jamais les noms des photographes que j'aime bien. Alors, j'ai des repères sur Instagram de photos que j'aime bien, mais je saurais pas vous dire les noms, quoi.
Bon, on va vous laisser. On vous remercie énormément de nous avoir suivis sur ce live, même si le début a été un peu chaotique. On espère que le live vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour nous soutenir. C'est très, très important. Et puis, à en parler autour de vous, etc. En tout cas, on vous donne rendez-vous demain matin en compagnie de Jérôme pour le prochain Techscope. Et on vous souhaite une excellente journée.
Et n'oubliez pas, vous savez ce que ça veut dire, ça.
C'est un peu flippant quand tu dis ça.
Ouais, c'est un signe de secte. C'est les tipeurs.
Je dis au revoir pendant 5 minutes.
Oui, j'appuie pas sur le bouton. On fait la grève du bouton. On continue de dire au revoir. Non, comme les...
Faut que j'y aille en fait.
Au revoir.
Bon.